Carnet d'IG, cultive et préserve ta santé avec l'INSERM. Saison 1, la mémoire qui déraille. Carnet d'IG, épisode 4. C'est confirmé. Il y a bien un lien entre notre cerveau et notre ventre, et plus précisément notre intestin. De plus en plus de nouvelles maladies apparaissent dont on ne connaît pas toujours les origines. Ces dernières années, entre stress, anxiété et habitudes alimentaires qui changent, augmentation de la consommation d'aliments ultra transformés pendant la pandémie par exemple, nos organismes ont été chamboulés.
Il reçoit des influences nerveuses du cerveau, notamment parasympathiques et sympathiques, qui, par exemple, peut contrôler le transit en cas de stress, par exemple. C'est quelque chose qu'on connaît assez bien.
J'ai pas mal d'amis qui, en plus de leur mal-être, m'ont fait part de l'apparition de problèmes intestinaux qu'ils n'avaient jamais connus auparavant. Et pour certains, j'ai vraiment l'impression que ce sont les douleurs rencontrées qui ont dégradé l'état de leur santé mentale.
C'est aussi que le fait d'être stressé modifie le fonctionnement du tube digestif, et en retour, ce fonctionnement du tube digestif va induire une modification du microbiote qui lui-même auto-entretiendra l'altération digestive observée. Donc, à travers ça, un des grands acteurs de la composition du microbiote, c'est aussi la santé de notre tube digestif.
Le microbiote, ça vous dit forcément quelque chose. Mais si, vous savez, ces fameuses bactéries qui vous veulent du bien. Enfin, presque toutes.
La santé du tube digestif va être un élément majeur dans la composition du microbiote que le stress lui-même, chez une personne saine, est capable d'induire une modification du microbiote qui, lui, en retour, va conduire à des altérations. Donc c'est une sorte de cercle vicieux.
Les liens entre nervosité et troubles digestifs, ce cercle vicieux est bien connu de Michel Nonlist, directeur de recherche INSERM et spécialiste de l'intestin, qui avait déjà répondu à mes questions auparavant. Mais les facteurs environnementaux, ça ne suffit pas à tout chambouler. Ça dépend aussi de chaque personne, de sa génétique, de son hygiène de vie. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus de personnes consultent pour des problèmes digestifs majeurs. Tout ça, ça me fait penser à une amie qui traverse une période difficile à cause de ses problèmes d'intestin.
Ça fait plusieurs années que j'ai des problèmes intestinaux et l'année dernière, le verdict est tombé. Je souffre d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Comment j'ai découvert ? Je suis tombée en dépression l'année dernière suite à un choc émotionnel et mes douleurs au ventre se sont vraiment aggravées. La médecin a tout de suite identifié mon état dépressif et m'a prescrit des antidépresseurs. Je suis également une thérapie. Ça m'a aidé à aller un peu mieux, mais mes douleurs, elles, étaient toujours là, toujours plus intenses. Et ça m'enfonçait un peu plus chaque jour dans la noirceur. Je suis donc retournée voir ma médecin et on a fait des examens complémentaires. Et il se trouve que la maladie qu'on m'a identifiée est souvent associée à un état dépressif. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si la dépression a déclenché ma maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ou si c'est cette maladie qui m'a prédisposée à faire une dépression.
Puisque le cerveau et l'intestin communiquent, quand il y a une atteinte à l'intestin, on s'attend donc à une éventuelle répercussion sur le cerveau. Mais on ne sait pas encore dans quelle mesure. De nos jours, de plus en plus de personnes sont atteintes de maladies chroniques qui touchent l'intestin, comme le syndrome de l'intestin irritable. J'ai l'impression que ces maladies touchent n'importe qui, et je me pose la question de comment ces pathologies peuvent influer sur la santé mentale.
Alors, tout le monde peut être touché. Il y a évidemment des gens qui sont plus sujets à cette maladie. En général, on a l'idée que c'est des gens jeunes, là, une femme jeune, entre 20 et 30 ans, mais en fait, nous, on voit bien, aussi bien dans les études que dans l'association, qu'on a des gens de tous âges. Et il y a des gens qui ont pu être malades à l'âge d'enfant, à l'âge de la scolarité. D'ailleurs, ça a pu avoir un impact, mais donc à tous les âges, jusqu'à l'âge d'activité 60 ans, 65 ans, hein, quel que soit l'âge de la retraite, mais aussi après la retraite. Hein, y a des gens qui vont garder cette maladie tout le temps et avec des évolutions dans l'intensité des symptômes, parfois des changements dans la forme des symptômes.
La personne que vous venez d'entendre est Jean-Marc Sabaté, chercheur à l'INSERM en physiopathologie et pharmacologie de la douleur et gastro-entérologue. Il est spécialiste de cette maladie qui est difficilement nommable et il nous explique pourquoi.
Elle n'est pas nommée, puis elle est peut-être aussi difficile à nommer parce qu'aujourd'hui, elle s'appelle le syndrome de l'intestin irritable. Mais avant, elle avait d'autres noms, ce qui peut paraître étrange pour une maladie. Elle change de temps en temps de nom. Et donc, le nom précédent, qui est peut-être le plus communément connu par la population générale, c'est la colopathie fonctionnelle. Mais elle s'appelait aussi colite spasmodique. Et même la définition de cette maladie change au fur et à mesure du temps. Là, elle change tous les 10 ans, ce qui traduit aussi quelques incertitudes qu'on a sur cette maladie et peut-être des difficultés d'appréhension pour les traitements, pour la recherche.
On a découvert que cette maladie pouvait toucher tout le monde. Mais certaines personnes sont-elles plus sujettes à la développer ? J'ai parfois l'impression que les femmes sont plus concernées par les problèmes intestinaux. Est-ce une simple impression ou une statistique avérée ?
Alors, ça touche, on estime, 2 femmes pour un homme, mais on a aussi, dans d'autres pays, une représentation un peu plus importante des hommes. Donc, peut-être c'est là, ça tient à finalement l'image qu'on a de cette maladie et qu'on véhicule à travers des médias, à travers la presse grand public, qui est plutôt attribuée une maladie de femme, entre guillemets. Hein, notez bien les guillemets. Et donc, peut-être que les femmes hésitent moins à aller consulter pour ce type de problème. Alors que peut-être certains hommes ont une gêne et ne vont consulter que quand vraiment ils ont des problèmes qui impactent vraiment leur qualité de vie et des problèmes plus sérieux.
Une question en amène une autre. On suspecte donc le rôle du microbiote dans certaines maladies, mais quelle est son influence précise ? Peut-on le considérer comme étant le seul responsable et déclencheur de ces maladies ?
La question de l'œuf et de la poule, je pense que personne ne sait y répondre, parce que pour pouvoir y répondre, il faudrait pouvoir capturer le moment où la maladie se déclenche. Et à ma connaissance, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile chez l'homme en particulier, de trouver cette fenêtre où la maladie se déclenche et de voir à ce moment-là, est-ce que le microbiote était altéré ou pas. Sachant qu'effectivement, ce qui est observé dans beaucoup de ces maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, ce qui a été bien documenté, c'est qu'il y a effectivement des modifications de la composition du microbiote intestinal qu'on retrouve, avec souvent des diminutions de bactéries qu'on considère comme bénéfiques, que d'autre part, lorsqu'on transfère ou tente ce microbiote de patients dans des modèles sains, souvent on n'arrive pas à induire la maladie seul, c'est pas suffisant, mais ce qui laisse à penser que le microbiote est plutôt un cofacteur, un accélérateur de l'évolution qu'un déclencheur. Lorsque le tube digestif, la fonction digestive est altérée, souvent on a aussi une atteinte de ce microbiote qui probablement s'adapte aussi à un tube digestif ou un transit ralenti. C'est un marqueur des troubles digestifs, en particulier la constipation. Et c'est aussi un acteur partiel, mais c'est peut-être pas lui qui a déclenché les troubles digestifs, parce qu'il y a des expériences qui ont montré, lorsque par exemple on prend des médicaments qui ralentissent le transit, on est capable aussi de modifier le microbiote intestinal, simplement en ralentissant le transit. Et lorsqu'on prend ce microbiote intestinal de ces souris auxquelles on a ralenti le transit avec des médicaments, qu'on transfère à des souris normales, elles ont aussi leur transit qui se ralentit. C'est comme si le microbiote s'adaptait à nouveau à son environnement, à la fonction du tube digestif.
On constate que la composition de notre microbiote est étroitement lié à l'état de notre système digestif, lui-même très lié à notre cerveau. Existe-t-il des maladies spécifiques qui concerneraient le microbiote et le cerveau ?
On a besoin d'améliorer la connaissance du rôle du microbiote au sein des pathologies, de mieux stratifier, de mieux personnaliser finalement, associé à une maladie et ou à un symptôme particulier pour pouvoir appliquer des thérapeutiques personnalisées. Donc ça devient à nouveau un outil de l'arsenal thérapeutique qui est tout à fait prometteur, sur lequel il y a des vrais enjeux, non seulement de recherche, mais aussi effectivement socio-économiques, particulièrement importants, tant dans la prise en charge des pathologies, mais aussi dans le maintien en bonne santé de l'ensemble de la population et dans la diminution des risques à développer des maladies chroniques.
Cultive et préserve ta santé avec l'INSERM. Au-delà des recherches scientifiques, ces troubles concernent des individus qui vivent avec au quotidien. Leurs témoignages, leurs ressentis, peuvent-ils constituer des pistes pour certaines études ? Le partage d'un vécu a-t-il également son rôle à jouer dans la prise en charge du patient ?
Moi, au quotidien, je vois des patients qui me racontent des choses qui résonnent dans toutes les études qu'on fait, aussi bien pour les mécanismes qu'on étudie que dans l'efficacité éventuellement des traitements qu'on leur propose et aussi la souffrance qu'ils racontent, leurs gênes au quotidien. Donc, j'ai eu avec une de mes patientes l'idée, il y a maintenant plus de 10 ans, de créer une association de patients. Et donc, on est au plus près des préoccupations des patients qui, parfois, ne sont pas exprimées lors des consultations, faute de temps, et puis parce qu'il y a certains tabous et les gens peuvent avoir peur.
Lorsqu'un patient consulte, il espère souvent obtenir un diagnostic clair et précis qui lui ouvrirait la porte vers une thérapie efficace. Dans le cas du syndrome de l'intestin irritable, est-ce aussi simple ou est-il possible de rencontrer des problèmes en consultation ?
Le problème, il est plutôt dans la certitude d'avoir quelqu'un qui a ce diagnostic devant vous, puisqu'aujourd'hui, il n'existe aucun test diagnostique certain. Et donc, quand on fait d'ailleurs des examens complémentaires qu'on prescrit aux patients, ça peut être de la coloscopie, ça peut être des prises de sang pour rechercher des anomalies. En fait, tous ces examens n'ont qu'un seul but, c'est d'éliminer d'autres maladies qui pourraient produire les mêmes symptômes. Donc, ce qui fait que quand on voit les patients, en général, on leur dit « Écoutez, vos examens sont normaux ». Donc, je pense qu'il faut tout de suite expliquer aux patients que les examens n'avaient pas pour but de prouver qu'on a cette maladie, mais d'en éliminer d'autres qui auraient pu bénéficier de traitements différents et que cette maladie, elle, a une existence réelle.
Alors que le parcours pour diagnostiquer cette maladie semble être sinueux, la souffrance de certaines personnes atteintes n'en est pas réduite pour autant. Mais peut-on qualifier cette maladie de grave ?
Alors, cette maladie, effectivement, peut avoir différents niveaux d'intensité ou de sévérité. On a d'ailleurs des échelles pour le mesurer. Mais chez certains patients, dans la classification ancienne qui était celle de Rome III, il y avait eu un groupe qui avait fait un point un peu sur la sévérité, ses causes, les facteurs qui font qu'on a une maladie plus ou moins sévère. Et on estimait qu'il y avait 25% des patients, un quart, donc qui avaient des formes sévères. Et c'est ces formes-là qui impactent la qualité de vie. Et cet impact sur la qualité de vie, il peut être du même niveau ou voire supérieur à des maladies que nous, on reconnaît comme pouvant impacter la qualité de vie. Quand vous dites ça à mes collègues, ils n'imaginent pas que quelqu'un qui a l'air bien portant, qui est jeune, qui est sur ses deux pieds et qui vous montre des examens qui sont normaux, puisse avoir une altération de la qualité de vie telle que quelqu'un qui va aller 3 fois par semaine en dialyse et qui donc aura du mal peut-être à prendre des vacances et à s'organiser dans sa vie au quotidien.
Je suis atteinte d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et c'est vrai que quand la pandémie a commencé, j'ai eu beaucoup de mal à gérer ce que je ressentais face à cette situation qui était quand même assez inédite. Je suis globalement très sujette au stress et étant donné que je suis atteinte d'une maladie qui peut être fortement influencée par ce genre de facteurs, j'essaye au maximum d'éviter les situations qui peuvent me provoquer un sentiment de stress ou d'anxiété que je n'arriverai pas à contrôler. Mais en mars 2020, on nous a plongé dedans et personne n'a vraiment eu le choix ou le temps de s'adapter. Et c'est vrai que j'ai très vite ressenti un impact négatif sur mes symptômes digestifs. J'ai donc vite essayé de mettre des mécanismes en place pour me détacher justement du climat de stress ambiant, parce que je ressentais bien que ça avait non seulement un impact sur ma santé mentale, mais également sur ma santé physique.
Nous l'avons tous ressenti. Ces 2 dernières années ont été difficiles pour une grande majorité d'entre nous. Stress, anxiété, dépression, la santé mentale des uns et des autres n'a pas été épargnée. Mais alors cela s'est-il également ressenti au niveau des diagnostics liés aux troubles digestifs ?
On a eu un stress de la pandémie. Qui est un stress majeur. Il y avait 3 peurs, la peur de mourir soi-même, d'infecter ses proches, les embêtements liés au confinement. Le premier confinement en France a été très dur, des privations quand même de sortie, les gens n'allaient plus travailler, donc limitation de la vie sociale. Et puis on se retrouvait à faire l'éducation aux enfants. Et puis un stress qui maintenant est plus prévalent, c'était le stress financier. Est-ce qu'on va perdre son travail ? Que va-t-on devenir ? Eh bien, ce stress-là, les gens qui sont malades ou non malades le reçoivent de la même façon. C'est le résultat d'une étude qu'on a menée, nous, avec l'Association des patients, pendant la première vague.
Je me demande, Est-ce uniquement des personnes malades qui ont été touchées par le confinement et qui ont vu des répercussions négatives sur leur système digestif? Ou tout le monde, finalement?
Mais ce qu'on voit, c'est que l'effet du stress lui-même est différent si vous êtes un sujet qui n'a pas de problème particulier ou si vous avez un syndrome de l'intestin irritable. Et notamment, on l'avait montré dans une autre étude et d'autres collègues l'ont montré aussi, il y a un phénomène d'adaptation au stress qui est déficient chez les patients avec syndrome de l'intestin irritable. Et donc, vous êtes soumis à un stress, vous le recevez de la même façon, mais vous allez en faire quelque chose de différent. Vous n'allez pas bien lutter contre ce stress et donc il va générer de l'anxiété, de la dépression et même une altération de qualité de vie et un niveau de sévérité qui va s'aggraver dans votre maladie. Alors, il y a des moyens de lutter contre le stress, hein, des petits moyens qui sont, par exemple, de s'impliquer dans des activités qui vous plaisent. Ça peut être de la peinture, de la lecture. Voilà, mais pendant la première vague de la pandémie, ce qui a été noté après, d'ailleurs, ce n'était pas forcément la même chose dans d'autres pays, c'était le fait que les gens étaient scotchés 24 heures sur 24 aux chaînes d'informations qui annonçaient que des catastrophes. Voilà, pour ne pas ressasser tout le temps le négatif et finalement noircir le tableau et avoir un impact négatif sur votre santé.
A priori, le serpent n'est pas prêt d'arrêter de se mordre la queue. Avoir mal au ventre parce qu'on est anxieux, être anxieux parce qu'on a mal au ventre, c'est ça aussi que peut représenter la voie rapide entre cerveau et intestin. Mais dans notre ventre, des indices précurseurs de l'apparition d'un trouble peuvent être identifiés. Un suspect semble clairement désigné, notre microbiote. Mais le microbiote, c'est quoi exactement et surtout comment ça fonctionne? Des bactéries dans notre corps, ce n'est pas dangereux? Autant de questions que nous continuerons à nous poser dans nos carnets d'IG. Carnet d'IG, le podcast de l'INSERM. C'est la fin de ce quatrième épisode de Carnet d'IG, le podcast de l'INSERM consacré à la découverte des mécanismes de notre corps. Nous remercions Michel Nunlist et Jean-Marc Sabaté pour leurs interventions dans cet épisode. Une coproduction de l'INSERM et du Labo des Savoirs que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.